Nos deux premiers longs cours nous ont permis de découvrir à la fois la Lune, avec le voyage incroyable dans l'espace, et puis surtout cette première circumnavigation de la Terre faite par Magellan. Ce sont peut-être les deux voyages les plus incroyables que l'homme ait jamais tenté. Aujourd'hui, j'aimerais surtout vous faire découvrir à la fois la situation européenne à l'aube de la découverte de l'Amérique, c'est-à-dire vivre à la fois l'aventure de Christophe Colomb et en même temps saisir véritablement comment cet homme était vraiment l'homme de circonstance entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, celle qui nous intéresse. La première question qu'on se pose, c'est quels ont été les événements, quelles ont été les causes qui vont en fait permettre à Christophe Colomb de découvrir l'Amérique. Alors, voyons un peu quel est le monde dans lequel il est né, quel est le monde qu'il a juste précédé. Parce que, curieusement, c'est quelqu'un qui est peut-être l'homme du moment, c'est peut-être le plus international aussi de tous les marins de l'époque, car né à Gênes, ayant été corsaire en Catalogne, ayant ensuite servi pour le roi de France, ayant servi ensuite au Portugal, il est devenu espagnol, il a toujours écrit en espagnol. On sent déjà qu'il a parcouru tout le bassin méditerranéen, on sait qu'il est allé se balader en Afrique, qu'il est monté certainement jusqu'en Islande, donc c'est quelqu'un d'universel au sens large du terme. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est qu'en même temps, c'est quelqu'un de totalement moyenâgeux. Et je dis moyenâgeux parce que il faut comprendre qu'au XVe siècle, on était d'abord religieux. On ne parlait que de croisades, on ne parlait que de problèmes religieux. Le catholicisme se défendait encore contre l'islam. Et en fait, on sent à la fois le côté nébuleux du Moyen-Âge, ce mysticisme dont je parlais, et en même temps déjà cette renaissance, cette valorisation de l'humain qui va permettre un éclatement incroyable du monde. Et c'est vrai que de toute façon, en voyant la situation européenne de l'époque, on comprend que l'Amérique, par exemple, devait être découverte. Pourquoi ? Eh bien, parce que on a déjà senti la dernière fois, lorsqu'on a parlé de Magellan, qui est d'origine portugaise, on a senti que ce Portugal, tout à fait au bout de l'Europe, était le seul pays qui était calme, qui était pacifique, et qui pouvait justement se permettre, grâce aux entreprises d'Henri le Navigateur, de commencer à détourner le problème moyen-oriental, c'est-à-dire ce problème musulman en soi, pour faire le tour de l'Afrique et découvrir l'Asie. Ça, c'est la première idée. Et puis ensuite, on remarque que petit à petit, à la fin du XVe siècle, tout va se concrétiser sur certaines nations qui, elles, vont devenir des nations fortes. L'Angleterre, et on connaît la suite, c'est-à-dire effectivement la force coloniale de l'Angleterre arrivera beaucoup plus tard, mais elle commence à s'unir. Vous avez la France, qui a exactement le même phénomène. Ça permettra également à ce pays de s'intéresser à l'Amérique plus tard. On sent également cette volonté de devenir fort, donc de devenir colonial éventuellement. Et puis surtout l'Espagne. L'Espagne qui aujourd'hui va nous intéresser particulièrement parce que pour la première fois, on sentira une sorte d'unité politique. Je pense bien sûr à Ferdinand d'Aragon et à Isabelle de Castille. Donc on va vivre les dernières heures musulmanes de l'Europe, on va vivre surtout à Grenade. On va essayer de découvrir ce qu'était véritablement Grenade en 1492, juste avant que Christophe Colomb reçoive la permission de partir pour l'Amérique. Et puis, naturellement, cette Espagne va pouvoir devancer le Portugal, parce que cette puissance va se concrétiser grâce à Christophe Colomb. Comme le Portugal a refusé l'offre qu'il va faire, c'est-à-dire l'offre de l'aventure, Le Portugal était prudent, le Portugal était peut-être pacifique, était peut-être le peuple le plus entreprenant, le seul qui était capable de commencer la colonisation du monde, mais le fait de l'avoir véritablement débuté par l'Afrique et l'Asie va l'empêcher de songer à l'utopie de Colomb. Or, lorsqu'on est jeune, comme Ferdinand, comme Isabelle, lorsqu'on vient de gagner la partie de Grenade que l'on décrira tout à l'heure, mais je crois qu'effectivement, même sans se mouiller, même sans donner un sou, on peut se permettre d'engager un utopiste, on peut se permettre de s'imaginer effectivement l'apport, le côté financier que pourrait permettre la découverte d'une nouvelle terre. Alors il y a beaucoup de choses dans l'air, mais je crois qu'on ne comprendra jamais Christophe Colomb si on n'est pas à la fois justement du passé, c'est-à-dire du 12e, du 13e, du 14e siècle, et en même temps déjà du 16e et du 17e. Et c'est ça qui en fait un homme assez curieux, qui est déchiré entre deux mondes et qui est en même temps extrêmement secret. Il est secret comme un homme du Moyen-Âge, comme quelqu'un qui vivrait au fond d'un scriptorium, dans un couvent, et qui ne voudrait pas tout dire. Et je crois que c'est ce qui a aussi permis de donner une mauvaise image de Christophe Colomb. Car maintenant, j'avoue que la seule chose qui m'a beaucoup intéressé chez lui, c'est de relire les livres qu'il avait lus et en même temps de découvrir ce qu'il avait noté en marge de ces mêmes livres. Et c'est seulement dans ces petites apostilles qu'on va petit à petit découvrir le caractère véritable de Christophe Colomb, car chaque fois qu'il notait quelque chose en marge, c'était une découverte qui remontait aux Grecs, qui remontait aux Arabes, qui remontait au Moyen-Âge, et à partir de là, on peut créer une sorte de puzzle qui va nous permettre de le connaître, de le comprendre et de savoir qu'il a presque tout caché à ses contemporains. Donc il avançait ses pions en donnant simplement quelques idées par rapport à cette volonté de traverser une mer encore inconnue. Il donnait des distances qui souvent étaient fausses. Il marchandait véritablement sa future découverte parce qu'il savait que c'était une utopie. Il savait aussi que c'était quelque chose qui pourrait rapporter des âmes à Dieu. Et là, il y a le côté mystique qui intervient. Il voulait absolument découvrir cette dernière partie que peut-être personne n'avait découvert avant lui, c'est vrai, mais qu'il trouvait étrange aussi, parce que on ne comprenait pas en ce 15e siècle que si les trois parties existantes du monde, la trilogie tout à fait mystique et presque biblique, pouvait déboucher sur une quatrième qui n'avait jamais été touchée par la foi chrétienne. Comment Dieu avait-il pu laisser de côté la quatrième partie du monde? Ça, c'était une grande question. Donc, il fallait presque la voiler. On peut même s'imaginer aujourd'hui que Christophe Colomb, en prétendant partir pour l'Asie, savait déjà qu'il partait pour l'Amérique, même s'il n'a jamais prétendu avoir découvert l'Amérique. Au moment de la naissance à Gênes de Christophe Colomb, tout ce qui correspondait au monde, à l'image du monde, était encore mystérieuse. Et j'attire l'attention sur ce mot parce que on va voir que tout découle en fait de légendes, d'histoires assez curieuses par rapport à la formation du monde, mais surtout à la connaissance des terres inconnues. Alors, il y a d'abord l'Église qui est là. L'Église qui en fait va imposer, ça il faut le comprendre, une vision du monde qui ne change pas, parce qu'elle est biblique, bien sûr, et qui, effectivement, refuse l'idée de nouvelle terre, parce que d'abord c'est un plateau, les choses sont bien séparées, la chrétienté avance ou recule comme elle peut, mais en définitive le monde est donné comme il est donné de manière biblique. Et ensuite, ce qu'on remarque aussi, c'est que il y a chez les anciens, il faudrait comprendre un peu comment cette pensée, par exemple grecque, est finalement parvenue un peu de manière sous-jacente en Europe. Et là, je pense obligatoirement à l'Espagne une fois de plus. Je pense surtout à Cordoue, je pense aux musulmans qui vont eux distiller le monde ancien et nous permettre de redécouvrir Aristote, par exemple, ou les grands sages qui avaient déjà tout deviné pratiquement. Et l'idée aristotélicienne, eh bien, elle est intéressante parce que elle nous fait déjà comprendre l'idée de la sphéricité de la Terre. Ça n'est pas une petite chose. Être sûr que la Terre est ronde, je crois qu'à la fin du XVe siècle, tout le monde le savait. Mais au Moyen-Âge, il y avait eu énormément de légendes qui circulaient. Des légendes qui parlaient d'îles fabuleuses qui se seraient trouvées à l'ouest du Portugal. Et il y avait particulièrement les îles Saint-Brandon, ces îles qui auraient été colonisées déjà au VIe siècle par ce saint parti du Nord. Il y avait l'île au Brésil, comme on l'appelait. Pourquoi au Brésil? Bien, on parlait déjà d'ailleurs, c'est une petite anecdote mais qui est intéressante, on parlait déjà des bois de teinture du Brésil au XVe siècle. Ça veut dire que le long des côtes, on découvrait de temps en temps des bois tropicaux et qu'on remarquait que ce bois pouvait teinter, donner une sorte de teinture qu'on a utilisée par la suite. Donc on savait qu'il y avait quelque chose de l'autre côté parce que les courants, le Gulf Stream en particulier, ramenaient de temps en temps quelque chose d'Amérique, bien sûr. Alors il y avait encore d'autres choses qui étaient peut-être plus intrigantes. Il y avait l'Atlantide, bien sûr, avec toutes les légendes qui remontent à l'époque grecque, ça vous les connaissez. Les colonnes d'Hercule continuaient à s'appeler les colonnes d'Hercule et pourtant c'était Gibraltar ou Jebel El Tariq depuis l'an 700, au moment du passage des Arabes. Mais il y avait aussi Antilla. Antilla, c'était une île légendaire également, qui ressemblait, en somme, il l'avait appelée la petite Atlantide. Donc elle aurait encore existé à l'intérieur de l'Atlantique. Et puis, je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'au Moyen-Âge, on pensait, il y avait une curieuse idée sur les richesses. On prétendait, une fois qu'on a plus ou moins repéré l'idée équatoriale, on pensait que c'était les zones les plus ensoleillées, les plus chaudes, qui, elles, pouvaient fournir de l'or. C'est une idée assez sympathique et qui a été concrétisée géographiquement par la découverte de l'or le long des côtes d'Afrique. C'est-à-dire, plus on descendait, plus il faisait chaud, plus on trouvait de l'or. Donc Christophe Colomb, dans sa tête, s'est dit, il doit exister un continent, il doit exister quelque chose sur la planète qui est très chaud, un continent qui est sous l'équateur et qui pourrait remplir la quatrième partie de ce qui était censé être l'idée des cartes de l'époque. Essayez de penser à une grande galette. C'est un peu comme cela qu'on dessinait la Terre et on plaçait plus ou moins les trois continents dans trois morceaux de cette galette. L'Europe, l'Asie, l'Afrique en dessous. Et dans sa tête, il disait, mais enfin, si on a aujourd'hui partagé le monde en quatre, il doit y avoir une quatrième partie. Et cette quatrième partie doit être plus ou moins sous l'équateur et elle doit être plus ou moins à gauche du Portugal. Ça, c'est une idée de base qui va lui permettre ensuite de lire d'autres légendes ou de savoir d'autres choses. Il cherchait aussi l'île des sept cités. C'est cette cité qu'on a cherchée dans toute l'Amérique, d'ailleurs. On a voyagé dans tout le continent à la recherche, par exemple, du paradis. Ça, c'était une autre idée de Christophe Colomb intéressante. Il se disait, s'il y a une quatrième partie et que nous l'ignorons ou que l'Église l'a ignorée, ça doit être effectivement quelque chose qui ressemble à l'Éden ou qui ressemble au paradis terrestre. Il existe peut-être encore ce paradis terrestre. Et s'il existe, c'est de là que partent les fameuses quatre rivières. Et quand lui va trouver l'Orénoque, par exemple, il est sûr que c'est une des rivières qui descendent du paradis. Vous voyez qu'il y a plein d'idées contradictoires dans la tête de Christophe Colomb et qu'au fond, malgré les messages qu'il nous donnera au cours de ses différents voyages, on a l'impression que lui-même s'est fait sa petite histoire dans sa tête et que c'est seulement par les apostilles dont je parlais tout à l'heure, par ces petites notes de voyage qu'on commence à comprendre aujourd'hui, parce que c'est seulement depuis le 19e siècle qu'on essaye de comprendre la vie de Christophe Colomb, qu'on saisit petit à petit que dans sa tête, l'utopie était restée jusqu'au bout. Or, le mot utopie, après tout, c'est un mot qui a été inventé en 1516 par Thomas More, mais c'était dans l'air. Et je vous donnerai une autre preuve, une autre anecdote. Quand on pense qu'en Amérique, à partir de 1516, tous les moines franciscains, tous les dominicains, même les jésuites par la suite, ont encore cultivé l'idée d'utopie. On partageait les villes en quatre, on plaçait les différentes églises aux points cardinaux, on a continué à avoir cette idée quadripartite et complètement nouvelle du monde qui correspond vraiment à l'entrée dans ce XVIe siècle. Alors reprenons encore pour quelques instants cette volonté de se lancer vers l'ouest qu'ont eu d'ailleurs d'abord les Portugais. Les Portugais avaient un système, je dirais, d'invasion pratiquement, qui était très curieux. Petit à petit, ils lançaient un bateau, ils faisaient 50 lieues de plus, 100 lieues de plus vers le sud pour l'Afrique, et puis ils mettaient un nouveau comptoir. Ça, c'était l'idée portugaise, de placer des comptoirs commerciaux, de rechercher de l'or, des épices, etc. Et les princes du Portugal donnaient des commissions, par exemple, en cette fin du 15e siècle, pour que les gens se lancent vers l'aventure ou dans l'aventure vers l'ouest. Et en l'occurrence, très rapidement, ils vont découvrir les premières îles. Je veux dire par là que si ces commissions étaient données, alors on se disait, bon, ben, y a un côté mystérieux, il y a du danger dans cette mer ténébreuse, comme on l'appelait, et on ne connaît pas les limites du monde, on avait très peur. Je reprends encore une petite anecdote toute simple. Saint-Augustin, c'est pourtant bien vieux, c'est le début de notre ère pratiquement, Saint-Augustin disait, bon, les antipodes, ça peut peut-être exister, mais comment voulez-vous que de manière religieuse, de manière logique, par la logique chrétienne, des hommes puissent vivre la tête en bas. C'est pas possible. Donc, on était persuadé que tout à coup, on arrivait au bord de quelque chose, même si la terre était ronde, et que de toute façon, de l'autre côté, il devait y avoir un vide ou éventuellement de l'eau. Ça, c'était l'idée, que l'eau recouvrait le tout. Alors, bien sûr, pénétrer dans la mer ténébreuse, il fallait déjà de bonnes commissions pour oser y aller. Et pourtant, les Portugais vont le faire, puisque déjà au XIVe siècle, ils vont découvrir d'abord les Açores, et en 1402, ils vont arriver jusqu'aux Canaries, c'est pas tout près. Surtout pour les petites coques de noix de l'époque, et puis ensuite il y aura les îles du Cap-Vert en 1456. Alors là, ils s'arrêtent parce qu'il y a cette crainte toujours de se lancer dans le vide, mais ils ont peut-être eu des naufrages, ou en tout cas des détournements dus au courant marin. Regardez un peu une carte, c'est intéressant de voir la forme de l'Afrique et de voir la forme du Brésil. C'est vrai que ce courant maritime, que d'ailleurs Christophe Colomb a fort bien utilisé, et qu'on utilise encore pour les courses autour du monde et pour toutes les grandes traversées à la voile, eh bien vous lance involontairement d'abord le long des côtes d'Afrique jusqu'en Mauritanie, puis ensuite, si vous pouvez passer directement aux îles du Cap-Vert, vous êtes involontairement projeté sur l'intérieur de l'Atlantique, mais vous descendez en direction du Brésil. Donc on pense qu'il y a eu peut-être déjà des naufrages, ou en tout cas des expéditions involontaires vers ce Brésil. Je prends un tout petit détail. La dernière fois, nous parlions du traité Tordesillas, ce traité qui a été fait en 1494, juste après le retour de Christophe Colomb. Eh bien, on sait pertinemment que si les Portugais ont voulu repousser à 370 lieues et non pas à 100 lieues des îles du Cap-Vert la limite du monde, c'est parce qu'ils savaient pertinemment dans leur tête que le Brésil était exactement à 370 lieues de la dernière île qu'ils avaient découverte, c'est-à-dire les îles du Cap-Vert. Donc ça prouve bien qu'il y a énormément de connaissances. Je parlais des espèces de coffres-forts où l'on cachait les cartes, où l'on cachait les portulans. Il y avait des choses qui ne devaient pas être dites à l'époque, même si on les savait. Et c'est exactement le cas de Christophe Colomb. Et Christophe Colomb, si je reprends encore ses lectures, si je reprends un peu plus avant ce qu'il connaissait très certainement, je crois qu'il a lu assez tardivement, peut-être même en arrivant en Espagne, Marco Polo. Marco Polo, c'est quelqu'un d'extraordinaire à lire. Parce que quand je parle de lecture, il faut bien comprendre que la grande nouveauté de la fin de ce 15e siècle, c'est de pouvoir lire. C'est-à-dire non seulement d'être enfermé dans ces coffres-forts où l'on avait des portulans, non seulement de pouvoir pénétrer dans une bibliothèque un peu secrète avec des ouvrages qui sont encore des incunables, mais c'est surtout l'imprimerie qui intervient. Des gens comme Christophe Colomb ont eu des livres de chevet et ils ont pu inscrire sur ces livres de chevet ce qu'ils voulaient. Ces livres leur appartenaient, c'est quelque chose de totalement nouveau. Alors qu'on parle des Vikings, qu'on parle de Marco Polo, qu'on parle de Conti, de Ptolémée, enfin tous les grands qui ont permis de nouvelles connaissances, Marin de Tyr, tous ces gens qu'on redécouvrait petit à petit, bien tout ceci a permis d'avoir une excellente imagination de l'Orient, car après tout, personne n'était allé jusqu'en Extrême-Orient en ce 15e siècle. Alors je parlais de bibliothèque, je parlais de librairie, je parlais d'imprimerie plus exactement. Donc si ces marins lisaient, je pourrais vous dire que notre Christophe Colomb avait des livres de chevet bien, bien particuliers. Il avait lu, par exemple, Historia Rerum, qui était un ouvrage qui était fait par Pie II, un pape humaniste. Il avait lu Imago Mundi, qui était fait par Pierre Dailly, qui était sûrement un des livres les plus importants, un des best-sellers de la fin du XVe siècle, qui était écrit en 1480 par ce Français. Et puis, il lisait surtout la Bible. Alors ça, c'est important aussi, parce que dans la Bible, on trouve pratiquement toutes les clés de la découverte de Colomb. Bon, il s'intéressait beaucoup à Isaïe, mais ce qui l'a absolument fasciné, c'était l'Apocalypse. Cet Apocalypse de Saint Jean qui permettait, pour un utopiste, de retrouver tout le côté surréaliste qui l'intéressait véritablement. C'est vrai qu'en même temps, il était très scientifique. Si je reprends Aristote disait très pertinemment que normalement les colonnes d'Hercule et les Indes se trouvaient face à face, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une petite mer entre les deux. Ça, c'était l'idée clé de Christophe Colomb, et il va sans arrêt tenter de raccourcir cette distance. On ne sait pas s'il l'a fait exprès, mais en reprenant les Arabes, qui avaient des longueurs marines tout à fait précises, lui, au contraire, a utilisé des distances plus courtes afin de minimiser pratiquement cette distance entre les colonnes d'Hercule et les Indes qu'il voulait découvrir. La confusion n'est pas importante. Que ce soit les Indes, que ce soit l'Amérique, les deux choses pour lui étaient identiques. Il cherchait la pointe du continent asiatique. C'est vrai que très souvent, il s'est référé à Cipango. Cipango, c'était le Japon. On savait que le Japon existait. Il se référait au Katai. Il savait que l'empire du Grand Khan, que la Chine existait. Il en parlait sans cesse. Ça, c'était uniquement dû aux quelques phrases, aux quelques livres comme ceux de Marco Polo que l'on connaissait à l'époque. Alors maintenant, on peut dire qu'à partir de 1480, tout est déjà prêt pour lui. Il lui faudra 12 ans pour réaliser son œuvre. Après avoir passé en Espagne en 1484, il devra attendre encore jusqu'en 1492 sous les murs de Grenade.
Carità tontona, di carità innocente, di carità tontona, e come sape che gli abita chi glielo tutte ama sia persona e tutte a sia persona ma. Maria si va al monte, si arrabbia la bottigliera. ay. Ay, ay, ay. Picarita tontona. Picarita inocente, picarita tontona, y como sabe que yo a ti te quiero, tú te amas así a persona, y tú te amas así a persona. María, si vas al monte, cierra bien la portillera.
Tout va maintenant se concrétiser sur cette première date de 1492, c'est-à-dire le 2 janvier, qui est la prise de Grenade, ou plus exactement le moment où Boabdil, le dernier souverain de Grenade, va remettre les clés de la ville à Isabelle et Ferdinand. Alors, on est obligé de parler un tout petit peu aussi d'Isabelle et de Ferdinand pour comprendre ce qui va se produire. Isabelle va épouser Ferdinand d'Aragon en 1469. Et c'est une consécration absolument spectaculaire, car c'est la première fois en Espagne qu'on peut parler d'une nation. Attention, ces deux personnages ne sont pas unis pour le pire et le meilleur, ils sont simplement accolés l'un à l'autre. C'est un mariage d'amour, très certainement, mais en même temps, l'Aragon continue à être gouverné par Ferdinand, et la Castille appartient encore à Isabelle, qui a eu beaucoup, beaucoup de peine, d'ailleurs, à l'obtenir contre la Beltraneja, puisqu'elle n'était pas véritablement l'héritière du royaume de Castille. Alors, ils trônent ainsi ensemble, et il y a quelque chose d'intéressant quand on dit « Yo el rey, yo la reina », c'était la façon de signer. Leurs édits, tous les papiers étaient signés à la fois par Isabelle et par Ferdinand. Donc, de manière conjointe, ils gouvernaient ensemble et ils avaient créé une unité. Et c'est seulement à partir de cette unité qu'on va commencer à se réintéresser au sud de l'Espagne, à l'Andalousie. Car on avait pratiquement abandonné la reconquête, c'est-à-dire cette lutte contre les musulmans, depuis 2 ou 3 siècles. Et en fait, Isabelle et Ferdinand vont s'attacher à reprendre ce dernier petit bastion musulman pour prouver leur nouveau titre, c'est-à-dire ils sont devenus les rois catholiques, ils sont appuyés par la papauté. À la meilleure époque d'Isabelle et de Ferdinand, c'est vrai que c'est presque une trilogie. Il y a le pape à Rome, Isabelle et Ferdinand qui gouvernent véritablement le monde par la suite, bien sûr, mais non seulement cette partie de l'Europe, mais toutes les destinées de cette partie de l'Europe. Et on va le voir surtout dans les choix qui seront accordés entre le Portugal et l'Espagne pour cette ouverture vers le monde. Le fait d'être appuyé par Rome va toujours favoriser l'Espagne.
Thank you.
entrons ensemble dans le lieu où on peut le mieux rencontrer Isabelle et Ferdinand, c'est-à-dire aujourd'hui la cathédrale de Grenade. Une cathédrale vaste, belle, c'est vrai, et lorsqu'on s'approche du chœur, on voit ces deux orans, ces deux statues qui ont été travaillées par Philippe de Bourgogne, où l'on voit à la fois Isabelle agenouillée, Ferdinand, qui regarde le chœur, un chœur merveilleusement sculpté, tout en bois et en dorure. Et là, on se rend compte que ce couple est d'abord jeune. Je crois qu'au moment de leur début de règne, entre les deux, ils n'ont pas 50 ans. Donc, ils sont vraiment des jeunes, beaux et forts, qui vont donner une sorte de renouveau à l'ensemble de la nation. Et puis, on les retrouve également dans la chapelle qui est à côté, la grande chapelle royale, qui a été construite surtout par Charles Quint, bien sûr. Là, on est déjà dans du gothique. Ensuite, on glisse dans un style tout à fait nouveau. Et là, il y a les tombeaux d'Isabelle et de Ferdinand, dans une grande quiétude, avec cette puissance intérieure, cette sculpture toute de marbre, très lisse, très, très vibrante, sous un rayon de soleil qui pénètre par ses verrières gothiques. C'est vrai que là, on se rend compte à quel point ces deux personnages ont marqué toute l'histoire de l'Espagne jusqu'à aujourd'hui, parce qu'après tout, la colonie s'est arrêtée au 19e siècle, mais 1492, c'est aussi 1992. Et on reparlera de l'Espagne très fortement dans quelques mois, parce qu'après tout, ça a été le centre du monde pendant longtemps. Et je crois que l'autre aspect intéressant de ces deux personnages, on le retrouve à l'Alhambra. Montons simplement sur cette colline, il y a trois grandes collines à Grenade, et pénétrons dans ce qui les a fait rêver lorsqu'ils étaient établis dans le camp de Santa Fe en attendant la prise de Grenade. Souvent, Isabelle montait sur un des sommets de la Sierra Nevada pour apercevoir cette ville qui la faisait tellement rêver. Une ville qui représentait à l'époque le dernier endroit de confort d'Espagne, le dernier endroit de culture de l'Espagne, car après tout, Isabelle et Ferdinand, je le rappelle, étaient des gens du Moyen-Âge. Toute l'idée de la reconquête était basée sur la formulation d'une croisade. C'était des chevaliers, c'était des gens qui dormaient sur leur casque, c'était des gens qui essayaient sans cesse de concevoir une avancée comme on allait vers Jérusalem quelques siècles auparavant. Et en fait, Isabelle pouvait rêver face à l'Alhambra parce que le monde musulman allait s'éteindre en Europe. C'était la dernière flamboyance. Mais quand on pénètre dans l'Alhambra, qu'on voit la qualité des stucs, qu'on voit la qualité du décor, le confort de l'Alhambra, le paradis de l'Alhambra, on comprend qu'un roi chrétien puisse rêver au Coran et à l'islam. Je suis obligé de parler aussi de cet Alhambra physiquement parce que quand on pénètre dans ces palais, la première chose qui, si vous y allez par exemple une nuit de pleine lune, si vous y allez seul surtout, ce qui est très difficile aujourd'hui, mais on peut le faire, il y a des trucs pour cela, eh bien pénétrer à l'intérieur de la cour des lions ou dans la cour des myrtes et essayer d'entendre le silence, d'écouter ce silence. C'est un silence avec un bruit d'eau. C'est le silence parfait, c'est l'idée musulmane par excellence du paradis. Mahomet rêvait dans un désert. Toutes ses apparitions ont eu lieu dans un désert. Son paradis, c'était un paradis humide, c'était un paradis où l'eau devait chanter. Et c'est vrai que c'est la plus grande formulation de l'islam, c'est de créer sur terre le paradis en laissant dégouliner l'eau dans les fontaines, en la laissant chanter dans les canaux, en la laissant se reposer sur les vasques, sur les grands étangs. Ça, c'est une idée très particulière et on l'entend encore aujourd'hui à Grenade, on l'entend encore à l'Alhambra parce que depuis le 19e, on a sauvé l'Alhambra, on l'a redécouverte. C'est un palais qui avait été abandonné au 18e siècle, mais qui avait gardé cette espèce d'enchantement qui va fasciner Isabelle, puisqu'elle va demander, c'est un autre petit exemple, une autre petite anecdote, quand vous allez, si vous avez l'occasion, de dormir à l'auberge de San Francisco, le Parador national qui se trouve à l'intérieur de l'Alhambra, il y a une toute petite pièce en dehors d'un grand patio, avec un plafond qui est fait de milliers de stalactites de stuc qui descendent, et c'est un endroit confortable avec une ouverture sur ses jardins, avec des fenêtres ajourées en moucharabiais, et c'est là, curieusement, qu'Isabelle a voulu être enterrée en 1504. C'est là que son mari va la rejoindre en 1516. Donc, si deux souverains chrétiens ont voulu être enterrés à l'intérieur de l'Alhambra, ce bastion musulman par excellence, ce dernier bastion musulman du confort, je le disais, eh bien, ceci nous prouve à quel point elle a été subjuguée par ce que les musulmans avaient réussi à faire. Et c'est vrai que le côté paradisiaque, ce côté aquatique, cette chanson de l'eau qui rappelle le paradis sur terre, c'est une chose que, à nulle part ailleurs en Espagne, peut-être même dans le monde aujourd'hui, parce que c'est le dernier palais moyenâgeux musulman qui ne soit parvenu intact, eh bien, si en 1521 on va descendre Isabelle et Ferdinand dans leur cathédrale qui vient d'être construite par Charles Quint, je crois que c'est d'abord à l'Alhambra qu'on retrouve véritablement ce phénomène qui fait que ces gens du Moyen-Âge pouvaient rêver, être aussi utopistes d'ailleurs, et rejoindre les idées d'un Christophe Colomb. Car c'est elle, c'est Isabelle qui a finalement accepté l'aventure colombine. Avant ce 2 janvier 1492, Isabelle et Ferdinand avaient déjà pris Malaga, Almeria, Guadix, tout était tombé petit à petit, et maintenant, il ne restait que Grenade. Grenade qui va être investie. Grâce à ce camp de Santa Fe, en plein dans la Vega de Grenade, l'endroit le plus riche sur le plan agricole, c'est vrai que en quelques semaines, on va affamer la ville, cette ville qui va tomber. Simplement parce que Boabdil, ou plutôt son vizir, va négocier secrètement avec les généraux espagnols. Et on va dresser un acte de capitulation pour ce dernier roi mort, avec des conditions qui, curieusement, sont très douces. Et là, on peut se poser la question par rapport à Isabelle et Ferdinand. Ils promettent effectivement que ces musulmans pourront garder leur religion, qu'ils ne seront pas obligés de se convertir au catholicisme, et qu'ils pourront voyager et faire du commerce dans tout le royaume. C'est le 2 janvier. 1492. Quelques semaines après, on expulse les juifs et les musulmans d'Espagne. Donc il y a un retournement absolu de la situation, une sorte de trahison de la part des rois catholiques. Et on peut comprendre cette différence parce que c'est justement l'année qui va tout transformer. Au moment de pénétrer dans l'Alhambra, ce 2 janvier, il y a en avant les bannières de Saint-Jacques. Saint-Jacques qui a été le reconquérant de toute l'Espagne. Il y a les bannières avec la Vierge. Il y aura Mendoza, ce grand cardinal d'Espagne, qui cavalcade à côté de ses souverains. Et ils vont planter une croix d'argent sur le sommet de la grande tour de la Vela. Et là, sur cette tour, cette croix d'argent qui a été donnée d'ailleurs par le pape, donc c'est une véritable croisade appuyée par la papauté. Et on consacre Grenade au roi catholique. Et puis, Boabdil, qui lui a refusé cette trêve ou cette idée de pouvoir vivre encore en Espagne, va partir avec sa mère, Aïcha. ce Boabdil qui s'éloigne dans la Sierra, qui refuse de pénétrer encore dans l'Alhambra. Et bon, il pleure, c'est vrai. On comprend qu'on puisse pleurer devant un tel spectacle. Lorsqu'on a visité une fois l'Alhambra, on ne l'oublie plus. La seule envie, c'est d'y retourner, d'y vivre quelques instants, comme les grands romantiques du 19e siècle ont pu le faire. Et il pleure sur un royaume qui va fermer définitivement la porte africaine sur l'Europe. Et à partir de là, il faut ouvrir une autre porte. À l'instant où tombe l'idée musulmane en Espagne, la porte est ouverte pour aller vers d'autres découvertes, vers d'autres conquêtes. Et là, je reprends l'idée chrétienne. Si la croisade est terminée pour l'Espagne, il reste à évangéliser le quart du monde. Et je crois que l'idée est très précise et Colomb a très très bien joué cette carte en disant, si nous trouvons une partie nouvelle, si nous trouvons la queue de l'Asie, eh bien, il y aura de nouvelles âmes pour Dieu. Si à l'époque, les rois catholiques étaient si catholiques, on comprend que ceci ait pu être le ferment de la découverte de l'Amérique. Et c'est le 17 avril de cette même année que les rois vont signer la capitulation qui va donner des titres incroyables à Colomb. Et à partir de là, il n'a plus qu'à trouver quelques bateaux et à traverser les mers. Si aujourd'hui nous nous arrêtons en ce 2 janvier 1492, c'est parce que c'est la date fatidique qui va permettre à la fois le passage du Moyen-Âge à autre chose. C'est là que Colomb va pouvoir convaincre de manière déterminante les rois catholiques. On le comprend pourquoi, c'est une conjonction historique fantastique. En fait, il avait déjà présenté son projet le 20 janvier 1486. Donc il avait déjà attendu longtemps. Mais il s'est rendu compte que Grenade, c'était l'événement qu'il fallait pour que cette reconquête terminée, les rois catholiques soient prêts à une nouvelle aventure. Et cette nouvelle aventure, nous allons la vivre ensemble mercredi prochain, parce que nous partirons effectivement le 3 août 1492 avec Christophe Colomb pour découvrir cette Amérique. Cette Amérique qui va bouleverser le monde et toutes les notions que l'Europe avait jusqu'alors. Bouleverser le monde pour plusieurs siècles, c'est vrai, mais on en parlera pendant plusieurs dizaines d'années comme étant la chose la plus incroyable que l'homme n'ait jamais fait depuis la naissance du Christ.